Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Dans l'histoire et dans l'histoire du rugby,
les grandes gueules du sport.
Bon, ils les remettent dans le match. C'est tout à l'honneur pour. Enfin, je veux dire, c'est tout à ça. Alors, comment dire.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport. Bien réveillés, comme tous les samedis et les dimanches. On est très heureux d'être avec vous de 9h à midi. Heureusement, déjà, vous l'avez entendu que ça commence qu'à 9h.
Oui,
hein.
Oui.
En tout cas.
Heureusement,
merci.
Parce que plutôt, t'imagines le truc.
Le beurre dans la bouche. Merci de votre fidélité. Merci à vous, les auditeurs, parce que nous venons de battre notre record absolu en podcast au mois de septembre. Oh. Donc, c'est grâce à vous, c'est grâce aux grandes gueules. Donc, voilà. Merci
ouais,
à
là,
tous.
On là, va distribuer les bons podcast, et mauvais points. Tu peux points. Te réveiller à l'heure que tu veux, c'est ça l'avantage.
Exactement. En pensant que nous, on fait l'émission à 14h, alors que pas du tout. Il faut se réveiller tôt le matin. Au sommaire aujourd'hui, un très joli programme à vous proposer. Déjà, la retraite de Rafael Nadal, c'était l'une des informations de la semaine. Notre débat sur le grand champion gagné 14 Roland-Garros. Est-ce le plus grand exploit de l'histoire du sport? C'est la une des GG dans quelques instants. Une question impossible à trancher et pourtant, vous allez devoir trancher. 10h, l'escapade qui ne passe pas jeudi soir en pleine soirée des Bleus. Kylian Mbappé était en Suède au restaurant, puis en boîte de nuit. Kylian Mbappé est-il en train de se perdre? C'est le bras de fer des GG à partir de 10h. Et puis 11h, le Paris FC va entrer dans la cour des grands avec le rachat de la famille Arnaud et Red Bull. Le deuxième club parisien peut-il faire de l'ombre au PSG, sans oublier vos rubriques traditionnelles, la punchline. On parlera de Tadej Pogacar et des doutes entourant le champion slovène. Le zapping, on s'en fout pas. Il sera notamment question de rugby et du retour d'Antoine Dupont. Évidemment, le débat caché 11h30, mais là, vous le savez, mes GG, je ne peux rien vous dire. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, même si vous avez déjà entendu leurs 12 voix, une grande gueule qui, comme Rafa Nadal, le jour de sa retraite, il va nous laisser un grand vide et beaucoup de place en même temps. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bonjour. Ah, j'aime bien quand tu me compares à des légendes comme ça.
Tu es une légende de la radio.
Ah, mais j'ai au moins 14 saisons de grandes gueules du sport dans les pattes. Hein.
Largement.
Ouais, bon, j'ai pas tout gagné. Hein.
Est-ce que ce serait un exploit? C'est un exploit ou pas 14 saisons de grandes gueules?
Bah, 14 avec toi, ouais. C'est un exploit. sans te mettre le micro sur la tête.
Attends, on en a combien ensemble?
Non, je sais pas, je les compte plus maintenant, celle-là.
Je crois qu'on est dans la cinquième saison, tous les deux.
Ouais, ça se voit pas, hein.
C'est aux 7 ans que ça, les couples, que ça peut commencer à briller. Mais les 5 ans, ça se passe bien, mon cher Christophe. Une grande gueule qui, comme Rafa Nadal, n'a jamais payé pour aller à Roland-Garros. Denis Charvet, salut Denis.
C'est pas faux.
Et il n'y a pas qu'à Roland-Garros, hein.
Ouais, il n'y a pas qu'à Roland-Garros.
C'est bien,
ouais. Ouais, mais j'ai mérité. Moi, je culpabilise. Culpabilise.
Ah, c'est bien.
Non.
C'est bien.
Tu aurais pu faire comme Kylian Mbappé et beaucoup aller dans les boîtes en Suède aussi.
Non, jamais.
Ça l'aurait fait aussi.
En Suède, jamais.
Ah bon?
C'est un regret.
Donc,
faut que j'y songe d'ailleurs.
Ouais.
C'est vrai. C'est bien. Non, là, Julien, il a dû y aller.
Oui, bon, on les connaît, les tennisman. Bah, justement, je vais vous le présenter. Ah. Une grande gueule qui, comme Rafa Nadal, à chaque fois qu'il était en finale, on connaissait l'issue. Julien Beneteau, salut Julien.
Bravo. J'adore.
Tu dis ça, le seul
très bon lancement.
Le seul français, un des rares français. Qui a battu Nadal.
Exactement.
T'as aucun respect.
T'es pas sur Terre.
Non, mais d'accord, mais
à Lyon,
sur Terre.
Ouais, à Lyon chez moi.
Bravo. Ouais.
Pas loin de chez David.
Tu sais ce qu'il lui a mis? Il a mis 6-3, 6-0.
C'est ça, non?
Ouais. Bah, il avait 17 ans, 18 ans.
Il était sur une jambe ou...
Mais dis pas ça. Mais non, tu as battu Nadal. On s'en moque.
Et en plus, il a mis une bulle.
Je suis pas dans le générique du début quand il y a un peu le beurre dans la bouche encore.
Mais parce que tu ne bafouilles jamais.
Merci, cher Julien.
Oui, voilà.
Et puis, une grande gueule qui, comme Rafa Nadal, son corps a 20 ans de plus que lui. David Douillet. Salut, David.
C'est clair. T'as bien raison. C'est vraiment ça.
Ça va, mon David?
C'est une catastrophe. Ça va, ouais. Toutes mes douleurs de vieux.
Ben oui, c'est pas le seul de vieux.
T'es beau comme un
âge. Je me doute, ouais.
Ouais. C'est vrai qu'avec les GG, à chaque fois, on se compare les bobos le matin quand on arrive, c'est dire si l'âge avance. Hein. Je crois que Julien avait une question pour toi, David.
Et non, parce que je sais qu'on est presque voisins. Oui. Enfin, moi, ma famille habite là où tu vis maintenant. On est Bressans tous les deux,
exactement.
C'est bien ça.
Et
oui.
Il voulait savoir où exactement tu habites.
Quel nom de ville?
Est-ce que tu peux le dire?
Ah oui, j'habite à Sertine.
Ah oui, Sertine.
Juste à côté.
C'est à côté de Bourg-en-Bresse. Exactement.
Ouais, ouais.
Voilà. Eh bien, voilà. On vient de perdre tous les auditeurs. Merci beaucoup.
Non.
On a gagné tous ceux de là. Ah ben, ça va alors. Un cadeau à vous faire gagner ce matin sur RMC. Vous le savez, les grandes gueules, non pas du sport, mais les grandes gueules tout court, faites leurs 20 ans toute cette semaine. On vous offre 5000 euros par jour dès que vous entendez ce titre de 2004. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Elle a donné en semaine là-dessus.
Eh
bien, ce sera le moment de vous inscrire en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16, restez bien à l'écoute, hein, ça tombera dans cette émission. Allez, on débute avec ce proverbe hawaïen qui dit « Si les cieux pleurent, la terre vivra ».
RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est une nouvelle participation ici à Roland-Garros, la 19e pour lui. 14 fois vainqueur ici, 22 titres du Grand Chelem. Il est espagnol, Rafael Nadal.
Ahí la tienes, ahí la tienes, Rafa Nadal al suelo. 10 Roland-Garros.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
Et c'est un ace. Oh le mec, il n'est pas longé, il est à genoux. Il est à genoux, Rafa Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
2011, 2012, 2013, 2014, 2017.
Nadal est une batte d'attaque. Il monte. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Immense champion. Il en jette sa raquette. Il ne croit pas ses yeux.
2018, 2019, 2020 et 2022.
Pour moi, c'est incroyable de jouer ici à la Flèche Adrien avec beaucoup d'émotion. C'est unforgettable.
Quatre consonnes et trois voyelles. C'est le prénom de Rafael.
La terre a tremblé jeudi matin. Il était 11h32. Rafael Nadal annonce dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'il met un terme à sa carrière le mois prochain. Sa Last Dance aura lieu en novembre lors de la phase finale de la Coupe Davis chez lui en Espagne. À Malaga, le monstre de la terre battue s'en va et c'est une grande page de l'histoire du tennis et du sport en général qui se tourne avec notamment ce record qui restera peut-être à jamais remporté, 14 Roland-Garros. Pour Richard Gasquet, Gilles Simon et Arnaud Clément, on tient peut-être là le plus grand exploit de l'histoire du sport.
Le mec a gagné 14 fois le tournoi, quoi. C'est impensable de se dire qu'un joueur gagne ce tournoi-là. Déjà une fois, deux fois, c'est inimaginable. Alors 14 fois, c'est sans mots, quoi, tout simplement, quoi. C'est un champion qui est hors norme, quoi.
Avoir été quasiment imbattable pendant toute sa carrière sur ce court en particulier, c'est assez dingue par rapport à ce qu'il a réalisé en termes de résultats simplement à Roland-Garros. C'est sans doute un des plus grands exploits jamais faits, tout sport confondu.
Il faut essayer de se rendre compte, il faudrait gagner genre son premier Roland à 20 ans et le gagner jusqu'à 34 ans sans s'arrêter. C'est juste irréel. À un moment où le tennis est peut-être à son pic et arriver à dominer les autres joueurs comme ça, voilà, c'est vraiment le plus grand record.
Alors on adore ces débats, c'est impossible à trancher, ouais. Mais la musique qui fout les jetons est cette question. Remporter 14 Roland Garros, est-ce le plus grand exploit de l'histoire du sport? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Je vais dire non.
Plutôt non. David Douillet?
Moi je vais dire oui.
Plutôt oui. Denis Charvet?
Non.
Non. Julia Beneteau?
Oh, on n'en est pas loin.
On n'en est pas loin, ouais. C'est plutôt oui, donc.
C'est plutôt oui, ouais.
Ok, il y a deux oui, deux non avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Bonjour Morgane.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Alors pour répondre à cette question, il faut évidemment interroger l'histoire, comparer quels sont les plus grands exploits du sport.
Un racket en main, Novak Djokovic, Margaret Court, 24 grands chelems chacun. Peuvent-ils toiser le record de l'Espagnol? Il y a aussi les deux grands chelems calendaires de l'Australien Rod Laver. Dans un sport similaire, le golf, 18 grands chelems pour l'ours doré Jack Nicklaus. En sport collectif, Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, Lionel Messi 8 Ballons d'Or. En basketball, Michael Jordan a soulevé 6 trophées NBA, jamais battu en finale. C'est 11 bagues pour Bill Russell avec les Boston Celtics. En sport mécanique, 7 couronnes planétaires pour Michael Schumacher et Lewis Hamilton. En moto, Giacomo Agostini a remporté le mondial 5 années de suite dans 2 catégories en même temps. Dans les sports de combat, qui pour affronter le tennisman le plus opiniâtre? Peut-être Rocky Marciano, pas une seule défaite en 49 combats. Sugar Ray Robinson, 172 victoires, jamais mis KO. En judo, Teddy Riner, c'est 11 Marseillaises en championnat du monde. En lutte, le monstre russe Alexander Karelin, 887 victoires pour 2 défaites. Au JO 2024, le Cubain Myrène Lopez a récolté un 5e or consécutif dans sa catégorie du jamais vu. Michael Phelps est peut-être le meilleur adversaire de Rafa, 23 fois sur la plus haute marche du podium au JO, dont 8 lors de l'édition de Pékin. La gymnaste Larissa Latinina, 9 or comme Carl Lewis ou Paavo Nurmi en athlétisme. En vélo, Eddy Merckx, Cannibal de Laurier, 27 classiques, 5 Tours de France, 5 Giro. Et dans les sports d'hiver, Une Américaine va peut-être mettre tout le monde d'accord. Elle s'appelle Michaela Schifrin, en ski alpin. Déjà 97 succès en Coupe du Monde. Le premier à 17 ans et elle n'a que 29 ans.
Merci beaucoup Morgane Maury qui a donc interrogé l'histoire. Évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question, mais il faut absolument trancher. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je veux pas entendre, oui, c'est peut-être l'un des plus grands. Non. Est-ce le plus grand exploit de l'histoire du sport? Christophe Cessieux, c'est plutôt non.
D'abord, tu trancheras pas, parce que c'est chacun selon sa sensibilité, chacun selon les sportifs qui l'ont fait rêver, et c'est souvent des sportifs que tu as, que tu as connus, dont tu as vécu la période quand tu étais ado ou jeune. Moi, il a fini par Eddy Merckx. Bon, pour moi, le plus grand de tous, et en plus parce que c'est mon sport, c'est Eddy Merckx. 525 victoires, 11 grands tours, 34 victoires sur le Tour de France, 64 ou 66 victoires d'étape, et il a gagné toutes les courses. Pour moi, c'est le plus grand. Mais évidemment que quand tu es tennisman, Rafael Nadal, c'est exceptionnel. Encore que... Moi, je suis persuadé que les 22 victoires en Grand Chelem de Rafa sont plus importantes que ses 14 titres à Roland-Garros. Parce que pouvoir s'imposer sur une surface qui n'est pas la tienne, ça, c'est un vrai exploit. Sur la terre, évidemment, il arrivait, les mecs, ils tremblaient, ils rentraient au vestiaire quasiment, tellement il les impressionnait, tellement il était fort, tellement il les dominait. Mais quand tu vois Nadal s'imposer à Wimbledon, je suis désolé, là, c'est quelque chose, c'était vraiment pas une surface pour lui. Au début de sa carrière, quand il était sur l'herbe de Wimbledon, tu le sentais vraiment pas à l'aise, et puis il a tout fracassé comme partout. Donc voilà pour moi. Donc c'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport, mais Morgan en a donné quelques autres, le Michael Phelps, qui remporte ses 8 médailles d'or olympiques en un seul Jeux olympiques. Il remporte toutes les courses.
Là, on revient sur le débat. Là, tu t'es perdu sur Merckx. Merckx, tu prends sa carrière, etc. Qu'est-ce qui est plus fort? Gagner 5 Tours de France ou 14 fois Roland-Garros? Au-delà des personnes. C'est ça qu'il faut recentrer.
Mais comment tu peux le définir? Comment tu peux y répondre? C'est la vérité.
Chacun sa sensibilité.
Oui, sensibilité. Moi, je pense que 5 Tours de France, c'est colossal.
Oui, sauf qu'il y en a 4 ou 5 qui en ont gagné 5. Et il y en a un qui en a gagné 7. On lui a enlevé.
Oui, parce que Nadal a gagné que. C'est le seul qui a gagné 14.
Je ne suis pas sûr qu'Armstrong ait été plus chargé qu'Indurain.
Non, mais je comprends.
Indurain en a gagné 5 aussi. Donc.
Je comprends ton raisonnement dans le fait que Nadal, c'est le seul qui l'ait fait et qui le fera.
Et c'est là où Phelps, c'est les 8 médailles d'or dans la même Olympiade. Ça rejoint.
Il y avait également 5 tours d'Italie, un tour d'Espagne en plus.
Nadal, il a l'US Open, etc. aussi.
Non, mais c'est pas les mêmes disciplines. En natation, on peut cumuler des victoires, mais c'est pas les mêmes distances. C'est quelquefois pas les mêmes nages, etc. Donc là, faut recadrer un peu les choses. Quand t'es dans une même discipline, sur un même créneau, avec les adversaires qu'il y a, les mêmes adversaires que t'as dans tout le reste de l'année et partout ailleurs, là tu peux comparer. Mais je suis désolé, la natation peut pas rentrer dans, Phelps peut pas rentrer dans ce classement, parce que il faudrait prendre une discipline, je sais pas,
je suis pas d'accord avec toi,
et comparer. Mais si,
non, parce que on n'a pas parlé de Bolt et de Carl Lewis et Cap Leider.
Non, mais Carl Lewis, il a pas parlé, je voulais en parler aussi.
À Los Angeles, Bolt, mais non, mais 100 mètres, 200 mètres relais à Pékin.
Eh ben
à Londres, c'est la même
chose.
À Rio,
c'est la même chose.
C'est monstrueux.
Le 10 de Comaneci, 7-10 en 60.
Ça sera plus jamais refait.
Mais le débat, il est pas dans le
Denis.
Comment te dire, le débat, c'est pas de se dire est-ce que ça sera, on va le refaire.
Quand tu mets en face les grands champions,
ne serait-ce que Pelé qui a une 3 Coupes du Monde, ça paraît irréel, je suis désolé.
Mais il fait que du foot, tu vois.
Justement, je pense que justement la comparaison est bonne, parce que c'est un sport collectif et que là on a un sport individuel.
Il y
a un sport collectif qui, quand tu gagnes 3 coupes du monde, que t'es dans un collectif, mais c'est extrêmement, je sais pas moi, ça me paraît énorme.
C'est pour ça que ça serait plutôt Pelé le plus grand.
Non, c'est pas le plus grand, mais je suis obligé de mettre Pelé face à Nadal, c'est tout. Carl Lewis qui fait le 100 et qui fait la longueur, je suis désolé. C'est mon
vide. Teddy Riner s'approche quand même de la performance de Rafa.
Bien sûr, 5 titres olympiques.
Dans sa discipline, le nombre de médailles d'or aux Jeux Olympiques dans sa discipline va être très dur à battre.
Sauf que ça se déroule sur une journée. Voilà. C'est 11 plus 5, ça fait 16 journées.
Le lutteur cubain qui a été 5 fois champion olympique dans sa catégorie de poids, comme l'était dit 3 fois dans sa catégorie de poids, là c'est comparable. Mais tu peux pas avoir un nageur qui a fait le 4x4 nage, le 100 mètres, le 200 mètres, le dos crawlé, etc. Là, tu peux pas comparer. Parce qu'il a tellement de possibilités d'avoir une médaille dans différents.
Oui, c'est la même discipline,
c'est la natation, d'accord. Mais après les distances. Tu vois, c'est pas comparable.
C'est comme si
Nadal. Attends, laisse-moi terminer. Ouais. C'est comme si Nadal faisait un Roland Garros en gagnant en 2-7. Voilà. Alors, on a un championnat sur 2-7, puis on a un championnat sur 3-7, et puis c'est ridicule, quoi. Tu vois,
mais t'es pas admiratif de leur marchand.
Non, mais alors moi, je voudrais.
Mais si, mais tu compares pas.
Mais pourquoi tu compares pas
Mais parce que t'as une possibilité du nombre de médailles de gagner une moment qui est 1000 fois plus grande que quelqu'un qui n'a qu'une discipline.
Alors,
évidemment.
Restons pas bloqués sur la natation. Si David n'a pas envie d'en parler, David est beaucoup plus costaud que nous, donc il a peut-être raison.
Il n'aime pas nager.
Donc, on fait pas la natation. Mais moi, je veux savoir si c'est le plus grand exploit. Et surtout, dans quelques instants, savoir si 24 grands chelems de Novak, c'est pas plus fort que les 14 Roland-Garros de Nadal.
Et non. Et j'ai des arguments.
On nous appelle au 32-16.
On va les balayer, tu vas voir.
Non, à tout de suite sur le producteur.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, ouais. David Douillet, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. On s'en fout pas. J'ai pas mal de rugby. Hein. J'ai le grand retour ce soir d'Antoine Dupont avec le Stade Toulousain ou encore Didier Cordonnier qui demande à sanctionner.
Cordonnier.
C'est Denis qui
reprend sur les prononciations.
Pour une fois que je peux te reprendre.
Tout peut arriver. Tu sais ce qu'on dit, Denis ?
Non.
C'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues, ça.
Ouais,
merci, Denis. Je savais pas où placer le R. Ouais. Qui demande à sanctionner Jégou et Oradou en équipe de France. Vous me direz évidemment si ça vous intéresse ou non. Mais restons sur ce débat.
Il va me faire un beau gruyère, lui.
C'est qui le Roquefort?
C'est qui? Eh oui.
Les copains, en reprenons le débat parce que ça fait beaucoup réagir. 14 Roland Garros, est-ce le plus grand exploit de l'histoire du sport? Évidemment, on parle de la retraite annoncée cette semaine de Raphaël Nadal. J'ai Julien sur le direct studio qui me dit. N'oubliez pas non plus les 9 titres de champion du monde WRC de Sébastien Loeb. Voilà,
Il y a deux Finlandais, un Italien qui pilotent dans le monde et c'est très très dur.
Ça, c'est l'ironie de Julien Beneteau. Il y a Didier qui nous appelle au 32-16. Salut Didier.
Bonjour à tous. Merci de me faire partager ce moment avec vous.
Bah écoute, à toi de trancher. Essaye, vas-y, selon ta conviction.
Non, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous tous. Il n'y a pas de débat. Mais bien sûr que c'est l'exploit du siècle. Mais bien sûr, j'entends que vous parliez. On parle. Il y a plein de sportifs qui ont fait de grands exploits. On peut reprendre. Il y a Usain Bolt. Il y a Michael Jordan à l'époque où il était au top en basket. Vous parliez tout de suite de Sébastien Loeb, bien entendu. Mais quand on regarde le sportif, ce qu'il a dû dégager pendant toutes ces années, toutes les semaines, tous les mois, tous les voyages qu'il fait, et à un moment donné. Dans tous ces Roland Garros, il est présent, il se bat et il gagne. Non, mais enfin, je sais pas moi. J'ai 60 ans, donc je suis le sport depuis presque toujours. J'ai pas souvenir d'avoir vu un sportif être si longtemps au haut niveau et gagner les 14.
À ce moment-là, tu parles de Djokovic qui en a gagné 24. Tu peux le mettre en face puisqu'il en a gagné 24 contre les plus grands joueurs du
moment. Denis, il y a un argument.
Didier, j'arrive. Vas-y, David.
Il y a un argument massu. C'est l'argument que je voulais te donner tout à l'heure. Il a gagné son premier titre de Roland Garros à 19 ans. Et il a gagné son 14e titre à 36 ans. À 17 ans d'écart, les copains. Essayez de me trouver dans la même discipline, même championnat, même truc, etc. Avec les adversaires les plus forts, évidemment. Il les a tous battus au fur et à mesure de ces 17 années. Trouvez-moi un athlète, trouvez-moi une discipline qui puisse être comparée à ce que je viens de dire.
On parle de longévité, mais c'est pas le débat quand on doit répondre à cette question. Est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire du sport? Je sais, Christophe, que tu as parlé de Merckx. Il y a un auditeur, je vous le disais il y a quelques instants, qui nous parle de Loeb. Mais Loeb, 9 titres, c'est considérable. Mais Ogier, notre autre français, il en a 8. Je veux dire, c'est, est-ce que pour répondre à cette question, il faut se demander si ça peut être égalé?
Regardez, j'essaie d'aller toucher la corde sensible de Christophe. ou même de Denis. Vous avez connu, connu un grand joueur de tennis suédois, bien Borg. Plus que moi.
Ah ben oui,
Borg. On est d'accord.
Ouais, génération.
C'est votre génération. Il dépassait un petit peu le cadre du tennis. Il était.
Ah, ça a été la première vraiment méga star.
On est d'accord. On est d'accord. Quand il a joué, quand il a fait ses records, entre guillemets, à lui, vous vous êtes dit à ce moment-là.
Il est inatteignable. Il avait fait quoi, 5 ou 6
6 Roland.
Ouais, mais il a arrêté à 26 ans.
Il a arrêté à 26 ans.
Mais on lui a pas demandé d'arrêter à 26 ans. L'autre, il a été blessé, etc. Oui, mais si, on peut comparer. Non, mais si, il faut comparer ce que comparable. C'est le même sport, la même discipline. Et à cette époque-là, je me souviens, tout le monde disait c'est monstrueux, ce serait inatteignable. Il en a gagné plus du double.
J'entends, mais tu peux penser que Borg, mentalement, à un moment donné, il a été fragilisé parce que c'est sa personnalité. Mais s'il n'avait pas été fragilisé, il en aurait gagné 15.
Mais ça fait partie du champion.
D'accord, mais il en gagne 6. Je ne suis pas d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu penses, parce que là, on est à chaud, est-ce que tu penses que 14, si je suis ta logique, dans 50 ans, jamais. 14, ce ne sera pas forcément inatteignable.
Moi, dans ma logique, Djokovic, 24, c'est monstrueux. Mais il a égalité avec Serena Williams et Margaret Court. Il va peut-être faire 25, je pense. Il va tout faire pour dépasser tout le monde. Mais ça veut dire que ça a déjà été fait. Moi, dans ma perception des choses, 14 Roland, ça ne sera plus jamais fait.
Mmh. Ouais. Ouais, moi aussi.
Alcaraz, il va peut-être pouvoir s'en approcher. Comme les 20 grands chelems.
Comme les 11 grands tours qu'a gagné Eddy Merckx et les 525 courses, tout le monde pense que c'est inatteignable. Même avec un mec comme Pogacar en face. Tout le monde dit il n'arrivera jamais à obtenir le palmarès d'un Eddy Merckx.
Et pourtant, la semaine dernière, Merckx disait bah, il est plus fort que moi. Mais est-ce que ça tue ses records, ça?
Personne ne le croit.
Il a tout gagné.
Si on prend ça comme argument, alors, dans ces cas-là, je pense que la plus grande de tous les temps, c'est Comaneci. Même Biles, qui est la plus grande, 7-10 aux mêmes Jeux Olympiques, on n'aura jamais 7-10 dans un sport individuel.
Ouais, mais si, tu peux le comparer aux 8 médailles d'or
Et
le golf, à ce moment-là. 18 grands chelems.
C'est sensible, c'est un sport où il y a des jugements, tu vois. Je suis d'accord avec ça.
Ouais. Alors, la grande performance, allons-y, parce qu'on est chacun dans notre performance, et n'hésitez pas à composer le 32-16 et nous dire pour vous quel est le plus grand exploit. Et c'est vrai que quand Christophe parlait de cordes sensibles, forcément vous connaissez mon amour pour le golf, je trouve que quand Tiger Woods gagne Augusta, alors c'est juste sur une performance et juste sur 4 jours, évidemment. Mais quand il gagne 10 ans après tous ses soucis, après tous ses déboires, il est au fond du trou, qu'il gagne 10 ans après Augusta, exactement, pour moi, ça restera l'une des plus grandes performances de l'histoire du sport. Mais dans son sport,
Nadal a gagné 17 ans plus tard.
Ouais. Oui, mais
et dans un sport comme le tennis, où la longévité, elle est moins qu'au golf, etc. Non, c'est...
Le parcours de Woods n'est pas le même, si tu veux. Donc, je comprends ce que dit JC aussi. Il revient de l'enfer et il gagne 10 ans après Augusta. Augusta qui est le plus grand tournoi dans le monde du golf.
Non, mais
Didier voulait rajouter quelque chose au 32-16.
C'est vrai que Nadal, il n'a jamais été blessé.
Didier.
Non, mais je voulais juste dire
Laissez parler Didier.
Oui, je voulais juste dire une chose. C'est bien entendu, dans tous les sportifs que vous êtes tous en train d'émunérer, mais bien sûr, c'est tous des grands sportifs de très très haut niveau. On peut parler sport mécanique aussi. Regardez Hamilton. Quand Schumacher a gagné tous ces championnats du monde, on s'est dit personne n'y arrivera. Hamilton est arrivé derrière. Derrière arrive Verstappen. Donc c'est toujours difficile. Il y a Bolt. C'est toujours difficile de dire personne ne battra. Moi, je pense que par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, si quelqu'un ne battra pas un autre sportif, c'est ce qu'a fait Nadal. Je le pense.
Oui, mais
Julien, toi qui l'as parfaitement connu, qui l'a battu une fois, c'était il y a longtemps, mais tu l'as battu quand même, Raphaël Nadal. Est-ce que cette semaine,
c'était sur la terre battue ?
Non, je l'ai jamais joué sur terre.
Ouais, sur terre battue,
pour moi, c'était le plus grand défi du tennis de jouer Nadal sur terre battue, notamment Roland Garros. Jamais joué, moi.
Et tu le regrettes ?
Maintenant, oui, mais sur le moment, je le regrette moins.
Qu'est-ce qui faisait qu'il était si fort sur cette matière plus que sur les autres?
Surface, là, il a toutes les armes. Il a une intelligence de jeu tactique qui sur terre est redoutable. Il a ses coups et ses forces qui sont adaptées à la terre battue avec des grandes trajectoires très bombées, une balle qui est très lourde, qui rebondit, qui te repousse. Il a le physique, le mental qui va, le goût de l'effort qui va avec cette surface. Et ses relatives faiblesses sont un peu masquées. il fait pas de points gratuits avec son service, mais sur terre battue, c'est pas grave. Et au contraire, il arrive à ouvrir les angles avec son service pour prendre l'échange à son compte. Il a le temps de défendre. Le court Philippe Châtrier est une dimension parfaite pour ses déplacements, pour ses positions en retour, pour ses frappes. Bref, c'est tout est.
On dirait que ça a été fait pour lui, ouais, qu'il a été fait incroyable. Pour lui, ce quoi.
Mais cette trajectoire était difficile à lire pour l'adversaire.
Non, parce qu'on sait où elle vont. On
sait. Et ça monte, ça va
ça
vite.
Ça repousse loin. Et le terrain est tellement grand que contre Nadal, dès qu'on perd du terrain, c'est terminé parce qu'il a une telle force de frappe avec son coup droit que derrière, il peut nous emmener partout. Et à Roland-Garros, il était injouable là-dessus.
Alors, si ce cours est fait pour lui, est-ce que ce cours doit être rebaptisé le cours Raphaël Nadal? Je sais que ça a été un des débats de la semaine. Débaptiser le Philippe Châtrier.
Non, je pense pas. Il a déjà une statue. Il a un cours à son nom en Espagne, à Barcelone. Il va tout avoir à son nom à Barcelone, en Espagne. Je pense qu'à Roland-Garros, voilà.
Non, mais la statue déjà,
c'est déjà énorme.
Et puis bon, c'est, il est pas français. Roland-Garros, c'est français.
Ouais, si on devait le renommer, il y a un cours qui devrait porter un nom d'un joueur français. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas un cours qui est.
Ah oui.
Le cours Yannick Noah.
Bah évidemment.
Eh oui.
C'est incroyable. On est le seul pays à. On a le seul mec qui a gagné un grand chelem chez nous.
Oui.
Et il a le nom d'une allée ou d'un salon dans un stade.
Souviens-toi, il y a une fresque minable.
Voilà. Il l'a fait, le président aujourd'hui l'a fait.
Yannick comptait vraiment.
Il a rien demandé.
Sur le nouveau cours.
Bien sûr.
Il pensait vraiment
qu'il pensait que ça allait être celui-là.
Baptisé
Simone Mathieu.
Celui qui est dans les serres en face du.
Il est extrêmement déçu de ne pas l'être.
Bien sûr.
Ok, alors juste pour vous donner cette dernière information.
La bonne question, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça?
Ah, mais ça, on ne sait pas. Alors ça, c'est. C'est
le
truc des.
Et le nombre de gymnases. David Douillet
qui
y a
dans
le trou.
Où ça sent un peu la
chaussée.
Bientôt il y aura la piscine, David Douillet,
après
le débat qu'on a fait.
Ouais, mais au moins, ça sent pas le Roquefort.
Il y a une piste noire à venir.
Tu l'as retenu, le Roquefort, pour moi, quand même.
Merci, Didier, d'avoir composé le 32-16. Une dernière information à vous donner. Sachez que les places pour la phase finale de la Coupe Davis sont en train de vendre, comme on dit, comme des petits pains, voire des gros pains avec beaucoup de feuilles d'or dedans. Sur les plateformes de revente, elles sont affichées entre 2 800 et plus de 50 000 euros. Et plus de 50 000 euros pour les derniers matchs.
La Coupe Davis va prendre un coup de booster. Ah, là.
Tu vas y aller, Julien?
Non, parce que moi, je suis en Colombie pour le barrage de la Billie Jean.
Okay. Si t'as quelques places, mais pas à 50 000 euros, tu le dis?
Ah, en Colombie, j'ai des places. Venez quand vous voulez. Bogota.
Très bien. On viendra. Émission délocalisée
si
en Colombie.
Il n'y a pas de souci. C'est 1600 mètres d'altitude. On y va. Ouais, avec plaisir.
Sauf que tous les rugbyman n'ont plus le droit d'aller en Amérique du Sud. Merci, oui. Denis. Tu resteras là. 9h43. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On s'en fout pas. Et notamment le grand retour d'Antoine Dupont. Ce week-end, c'est ce soir. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Denis Charvet, Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau. Et vous continuez sur le Direct Studio à nous donner votre plus grand champion et les plus grands exploits. Vous oubliez Mohamed Ali, l'exploit de redevenir champion après 4 ans de privation.
Pour moi, lui, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Mais c'est un autre débat, ça.
Bah, c'est pas le même débat.
Ok, très bien.
L'exploit de.
Donc on refait un autre débat.
Non, mais sachez que ça réagit beaucoup pour savoir si c'est le plus grand exploit de l'histoire du sport.
Morgan de la cité,
c'est un bon sujet. Raphaël Nadal, bravo à vous les GG. Dans 10 minutes, à partir de 10h, l'escapade suédoise qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'on est en train de perdre? A-t-on perdu Kylian Mbappé? Ce sera le bras de fer des GG, ce sera un 2-2. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Didier Codorniou qui demande à sanctionner Jégou et Oradou en équipe de France. On s'en fout, pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
Julien.
Je m'en fous pas, pardon.
Ça va toi?
Ouais, très bien.
Denis Charvet,
je parle de l'émission.
Denis Codorniou, donc candidat à la présidence de la Fédération française de rugby contre le président sortant Florian Grill, a dit à l'AFP qu'il souhaitait que la fédération donc sanctionne les deux joueurs inculpés pour viol en Argentine mais rentrés en France depuis. Voici ce qu'il dit: il y a eu deux joueurs qui portent le maillot de l'équipe de France et qui rentrent alcoolisés à 5h du matin. Ils doivent être sanctionnés, même si la peine doit être graduelle, et ce quelle que soit l'issue de judiciaire de l'affaire. Et selon lui, les retours, on en parlait la semaine dernière sur les terrains d'Hugo Radeau avec son club de Pau, montrent que la fédération n'est pas à la hauteur. Je me suis expliqué avec les présidents de Pau et de La Rochelle pour leur dire que je suis en total désaccord avec une reprise immédiate et j'aurais aimé que la fédération puisse sanctionner comme il se doit. Christophe Cessieux.
Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Codorniou. Je pense que effectivement, des garçons qui rentrent à 5h du mat, complètement alcoolisés, avec une jeune femme avec lesquelles ils ont tous les deux une relation sexuelle. Alors, on présume pas de ce qui s'est passé. Pour l'instant, la justice argentine.
Là, c'est pas l'affaire. C'est en équipe de France.
C'est pas l'affaire. Mais je suis plutôt d'accord avec lui. Quand t'es à l'étranger, que tu représentes ton pays, tu te dois d'être exemplaire. Le problème, c'est que ça leur a sans doute pas été exprimé assez de manière explicite avec
dans l'urgence
par les dirigeants, par les gens du staff. Effectivement, et Denis peut en témoigner, je pense. C'était de notoriété commune que les rugbyman français à l'étranger en tournée, notamment la tournée de l'été, c'était plus une tournée de vacances où t'allais faire la fête, où tu draguais les filles et tu rentrais bourré tous les soirs à l'hôtel. Mais personne ne leur a jamais interdit de faire ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut taper du poing sur la table. Alors je dis pas les sanctionner sévèrement à cause de ça, mais juste une sanction qui marque les esprits.
Ouais, mais attention, Julien, le rugbyman français, mais on va pas me faire croire que les Irlandais ou les Anglais, quand ils viennent en France au tournoi destination, au banquet, ouais, ils boivent pas des bières, etc. Et attention, il faut pas faire. Quand Didier Codorniou dit, il faut les sanctionner parce qu'ils sont rentrés alcoolisés à 5h du matin à l'hôtel.
Pour moi, c'est pas pour cette raison.
Je suis complètement d'accord avec Denis. Ce n'est pas pour cette raison. Est-ce qu'ils avaient le droit ou pas de faire une troisième mi-temps?
Bien sûr.
Donc après, ils ont le droit de rentrer à 5h du matin, etc.
Non, mais
après, c'est dans leur comportement. Ce qui se passe après. Et maintenant, sur le fait qu'ils rejouent en club, ça c'est un autre débat. Les sanctionner en équipe de France. Moi, pour cette tournée de mois de novembre, effectivement.
Ah, mais de toute façon, même Grill a dit, le président, qu'il n'était pas sanctionnant.
Moi, je pense que.
Je pense que
Didier Codorniou, c'est qu'en fait, la fédération aurait dû les sanctionner tout de suite. Si tu veux, comme ça, il n'y aurait pas eu de débat, savoir si les clubs pouvaient les faire rejouer ou pas, puisqu'il y a quand même ce débat qui est dans l'air. Puisque, rappelons-le, ils sont quand même toujours présumés innocents, mais il y a toujours le procès en cours. Donc, je pense quand même que c'est normal qu'on les sanctionne dans la mesure où c'est trop grave. C'est-à-dire de la symbolique, ce procès, ils ont fait quand même de la prison, c'est pas anecdotique. Tu peux pas, à un moment donné, l'équipe de France.
Vas-y, David.
Non, je suis pas d'accord parce que.
Mais sanctionner, ça veut pas dire sanctionner gravement. C'est de sanctionner, c'est de dire pendant la tournée d'automne, vous serez.
Non, mais tu les exclus de l'équipe de France pendant 6 mois ou voilà.
Franchement, vous avez jamais été jeune, sans déconner. Et je mets de côté l'aspect judiciaire.
Mais t'es obligé. Tu veux pas le mettre de côté justement. Et non.
Non, Denis, sincèrement. Sincèrement, je ne sais pas si M. Codorniou a été athlète un jour, j'en sais rien. Est-ce qu'il a connu comment fonctionne, quelle est la vie d'un athlète?
Il a été en équipe de France. Il a fait tourner. Il connaît.
Bon, ben voilà. Donc il sait de quoi on parle.
Bien sûr, c'est pour ça.
Je
ne
connais
exactement.
Pas. Il sait de quoi on parle. D'accord. Donc il a oublié que à 20 balais, t'es en équipe de France, t'es à l'étranger, tous les jours tu fais des sacrifices dans ta vie, t'as même mis ta jeunesse quelque part en berne, de côté, et comme nous tous, on l'a tous fait, excusez-moi les copains. Hein,
non, mais c'est pas là le débat, David.
Laisse-moi terminer. Dès que t'as une fenêtre de tir pour t'amuser un peu, tu le fais. Voilà. Alors, après, je parle pas de ce qui s'est passé derrière avec cette jeune femme.
Tu ramènes une nana dans ta chambre et vous êtes deux dessus. Je suis désolé, c'est pas une très très bonne image.
Excuse-moi. Non, mais c'est pas ça.
Si c'est juste bourré, oui. Non,
laisse-moi terminer. Je peux parler ou pas?
David.
Je vais terminer quand même. Je vais pouvoir dire quelque chose, sinon je me tais puis vous discutez entre vous, les copains. Ça va, quoi. Je vous dis simplement que l'histoire avec cette fille, etc., tant que c'est pas jugé, on peut rien dire. Et tant que c'est pas jugé, on peut pas donner de sanctions. On peut pas aller plus loin. Parce que si les types ont rien fait, vous vous rendez compte? Par contre, c'est normal qu'ils prennent. Donc tant que ça c'est pas fait, c'est pas fait.
Alors j'entends ce que tu dis, mais comme le disait très très justement Christophe, dans toutes les tournées il y a eu des dérives. On a des gens On a
mais c'est
collé,
pas,
on
attention,
est rentré. Attends. Et je pense que le problème, c'est l'affaire qui a pris une telle importance voilà. que tu peux pas passer sous silence un truc qui tu peux pas le ramener à quelque chose d'anecdotique. C'est pas possible. C'est ça que je veux dire.
J'ai jamais dit ça. Sauf que ce que j'entends là aujourd'hui, c'est que voilà, on imagine que ces gars-là n'aient rien fait du tout, qu'il se passe rien, que la justice les
non mais ça on a compris
pas sur la faute, c'est pas sur la faute,
c'est sur l'image renvoyée sur l'équipe de France.
C'est sur l'image symbolique.
C'est ça que veulent dire les autres et on a compris. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Je voudrais vous donner quand même une deuxième information dans le zapping des GG.
Donne-nous
parce que sinon là on a quasiment plus de temps. C'est le défi fou d'Amandine Buchard. Voilà. Parce qu'on a David Douillet, j'aimerais l'entendre là-dessus. On s'en fout pas, les copains. Julien Bennett.
Je m'en fous.
Ok.
Je m'en fous qu'il parle.
Ok.
Parce qu'il est énervé. Laissons David, parce que pour moi,
David, ça t'intéresse ou pas?
Non, je m'en fous. Non, je fais ça.
Après sa
elle était bonne, celle-là.
Après sa médaille de bronze en individuel et l'or par équipe au Jeux de Paris, Amandine Buchard avait annoncé vouloir participer au prochain JO à Los Angeles, sur les tatamis, oui, mais aussi sur les terrains de rugby à 7. Dans cette optique, la judokate a rejoint cette semaine les deux sections du Stade français. C'est vrai, un projet complètement fou qui avait d'ailleurs effrayé son ancien club du PSG Judo qui lui avait annoncé qu'elle serait sans club à partir du 31 août. Elle était venue s'expliquer sur RMC. Amandine Buchard.
C'est un objectif que je me suis fixé en sortant des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et j'ai vraiment à cœur d'essayer de ramener deux, voire trois médailles à ces Jeux Olympiques. J'ai vraiment hâte de rejoindre les Pink Rockets et je pense que je vais beaucoup apprendre d'elles. Et j'espère que venant du judo, je vais pouvoir leur apporter aussi quelque chose. Donc hâte de démarrer cette aventure.
Voilà, ça c'était sur le site du Stade français, sur RMC, elle nous avait confié qu'elle ne comprenait pas trop pourquoi le PSG ne croyait pas à ce défi fou. T'en penses quoi toi, judo plus rugby à 7, David?
Ah, c'est un beau défi, hein. C'est un beau projet. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Elle a besoin peut-être de renouveler sa motivation, renouveler sa carrière, aller de l'avant. Nos cousins du Roquefort c'est des vrais cousins. Non, mais c'est vrai. On a beaucoup de similitudes, on a beaucoup de points communs, on a beaucoup de façons, une logique, voilà, un engagement, une générosité, etc. etc.
Ouais, et puis vous faites les mêmes fêtes quand vous êtes sous le maillot de l'équipe de France, en plus.
Exactement. Nous, on se cache pas derrière, tu vois, parce que il y en a qui se font gauler en Suède, par exemple, et puis on, voilà, bon, enfin bref. Non, ben voilà, moi je trouve que c'est bien. Elle a raison de mettre du piment dans sa vie et dans sa carrière.
Et ce serait un bon débat dans les grandes gueules du sport, d'ailleurs, de voir
qui
tous ces sportifs.
Fait les plus belles fêtes,
non, tous les sportifs. De voir tous les sportifs qui ont envie aussi un petit peu de s'évader et de tenter d'autres choses, à l'instar d'Antoine Dupont qui reprend ce soir en rugby à 15 avec le Stade Toulousain, mais qui avait aussi des vues sur le rugby à 7. Et vous savez comment ça s'est passé pour lui en devenant champion olympique. On se retrouve dans quelques instants. On parlait de la Suède, justement, l'escapade de Kylian Mbappé. Est-on en train de perdre Kylian Mbappé? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.